Le journal.
Le journal est présenté par Ilan Malka.
Bonsoir. Des dizaines de milliers d'Espagnols et d'étrangers manifestent en ce moment même à Barcelone. Ils disent non au terrorisme. Benjamin Illy, notre envoyé spécial, nous décrira dans quelques instants l'atmosphère de ce rassemblement. Le Texas est aux prises avec l'ouragan Harvey. La puissance des vents était estimée à 4 sur 5. Elle est redescendue à 1 sur 5. Mais le phénomène reste malgré tout destructeur et très inquiétant, notamment au regard des pluies qui sont attendues. Nous entendrons notre correspondant Marco Walter. Nous ferons également un point sur les universités d'été politiques en France. Elles sont nombreuses ce week-end, à droite comme à gauche. Ces mouvements attirent-ils encore vraiment du monde? Peuvent-elles permettre à l'opposition de se restructurer après la large victoire de La République En Marche aux dernières législatives? Nous aurons des éléments de réponse avec Stéphane Robert et le politologue Thomas Guénolé. No tinc por, cela signifie « je n'ai pas peur » en catalan, et c'est donc le mot d'ordre de la manifestation qui s'ouvre à Barcelone actuellement, un grand rassemblement qui se déroule en ce moment même en réaction aux attentats djihadistes meurtriers des 17 et 18 août. Fleur à la main, des dizaines de milliers d'Espagnols et d'étrangers sont là. Les représentants politiques nationaux et catalans sont également présents. Aucun dirigeant de gouvernement étranger n'est cependant attendu. Benjamin Illy, présent sur place, nous décrit l'ambiance.
C'est très très impressionnant, les gens arrivent de tous les côtés, le Passeig des Glaciers a été envahi par la foule, une foule à perte de vue qui va presque déjà jusqu'à la Plaça Catalunya où doit s'achever normalement le rassemblement. Les Barcelonais, les Catalans ont donc répondu présents, la plupart avec une fleur à la main. Dans cette foule on voit des pancartes qui demandent la paix, tout simplement non à l'islamophobie, des pancartes qui disent bien sûr no tinc por, le cri du cœur des Catalans au lendemain de l'attaque des Ramblas. Ils n'ont pas peur, ils le prouvent aujourd'hui donc avec cette marche pour l'instant à l'arrêt tellement il y a de monde. Il le prouve aussi en brandissant fièrement le drapeau catalan. Une marche ouverte par la société civile, les policiers, les secouristes, les commerçants des Ramblas en tête du cortège. Eux qui ont vu l'horreur au plus près, qui ont aidé les blessés, les politiques, les officiels et notamment le roi Felipe VI n'arrivent qu'en deuxième ligne de cette manifestation. Ada Colau, la maire de Barcelone, l'a très bien dit hier, c'est la marche du peuple et le peuple est là pour le dire encore une fois, tous ensemble, no tinc por, je n'ai pas peur.
Voilà, comme le disait donc Benjamin Illy, le roi Felipe VI est donc présent dans la manifestation, tout comme le chef du gouvernement Mariano Rajoy qui a appelé à un message d'unité et d'affection pour la ville de Barcelone, capitale de la Catalogne, qui souhaite un référendum d'indépendance, on le sait. Quelles peuvent être justement les conséquences de cet appel? Écoutons à ce sujet Cyril Trépied, professeur à l'université de Cergy-Pontoise et spécialiste de la Catalogne.
Cet appel à l'unité peut ne pas suffire, mais l'absence d'un tel appel aurait eu des conséquences énormes. Quand les terroristes ont choisi de frapper Barcelone, ils n'ont pas seulement voulu frapper la Catalogne et les Catalans, ils ont voulu frapper toute l'Espagne. La société civile a un rôle crucial à jouer, que ce soit en Catalogne et dans le reste de l'Espagne. Les réactions immédiates aux attentats, les réactions de solidarité très fortes qu'on a observées dans ces heures terribles ont été absolument remarquables. Il faut espérer que la suite va aller dans le même sens.
Propos recueillis par Nabila Hamel. Les enquêtes se poursuivent à Bruxelles et à Londres après deux attaques à l'arme blanche. En Belgique, c'est un homme belge d'origine somalienne qui a agressé des soldats au couteau hier, peu après 20h, à proximité de la Grand Place, avant d'être abattu. L'assaillant, âgé de 30 ans, était arrivé en Belgique en 2004 et avait obtenu la nationalité en 2015. À Londres, il s'agit d'un homme de 26 ans qui a été arrêté devant le palais de Buckingham. Les policiers ont remarqué un sabre d'1m20 dans sa voiture et sont allés l'arrêter. Trois d'entre eux ont été légèrement blessés lors de cette interpellation. Ces deux attaques ont été qualifiées de terroristes. Dans les deux cas, les hommes ont attaqué en criant la phrase « Allah Akbar ». Le Texas est donc en train de faire face à un ouragan qui s'annonce comme historique. Alors si Harvey est si menaçant, ce n'est pas à cause de la puissance de ses vents. Celle-ci a diminué, comme c'était d'ailleurs attendu. Au départ, la puissance était estimée à 4 sur 5, elle est retombée à 1 sur 5. Si Harvey fait peur, c'est avant tout parce qu'il se déplace à vitesse très faible, ce qui le rend très dangereux, et aussi à cause des pluies qui sont annoncées. Marco Walter, bonsoir.
Bonsoir.
Alors vous êtes notre correspondant aux États-Unis et ce sont des pluies littéralement torrentielles qui sont attendues au Texas.
Exactement, il est actuellement un peu plus de 11h du matin. Sur place au Texas, on découvre depuis le lever du jour les premiers dégâts, les dégâts les plus visibles, surtout à Rockport, une petite ville portuaire qui s'est retrouvée en première ligne lorsque Harvey a touché terre. Là-bas, on rapporte des maisons, une école, même un hôtel qui se serait en partie effondré. pour le moment, toujours aucun bilan humain n'a été avancé. À Corpus Christi, en revanche, 300 000 habitants, la première grande ville qui était sur la trajectoire de l'ouragan, les dégâts semblent assez limités, même si on voit des toits arrachés, des arbres couchés, des panneaux ou des clôtures au sol. Sur l'ensemble de la région, le long de cette côte, entre 250 000 et 300 000 personnes sont actuellement privées d'électricité, alors que l'ouragan progresse vers l'est en déversant, vous l'avez dit, des torrents de pluie. La région de Houston est particulièrement concernée en ce moment. Justement, plus que la puissance du vent, on redoute la longévité de cet ouragan et la quantité de pluie qu'il va déverser jusqu'à mardi prochain peut-être. On craint des inondations catastrophiques au Texas, mais aussi en Louisiane, l'État voisin. Les estimations varient beaucoup, mais il pourrait tomber l'équivalent d'une année de précipitations en seulement quelques jours. Donald Trump a commencé à tweeter son soutien tout à l'heure. Harvey est un véritable test pour son administration. Personne ne veut revivre la tragédie de l'ouragan Katrina de 2005 et l'impréparation qui avait fait plus de 1800 morts et des dommages évalués à des dizaines de milliards de dollars.
Merci Marco Walter pour vos explications. En Turquie, le principal parti d'opposition, le CHP, tient ce week-end un grand congrès extraordinaire. L'objectif, c'est de dénoncer l'autoritarisme du régime du président Erdogan. Le chef du CHP, Kemal Kılıçdaroğlu, a pris la parole ce matin. Il a accusé Recep Erdogan de diriger le pays en tyran. Il a par ailleurs évoqué la soif de justice de la population. L'opposition veut ainsi lancer sa reconquête du pouvoir en vue des prochaines élections législatives et présidentielles de 2019. À Istanbul, Alexandre Biette.
Après la marche pour la justice, voici le congrès pour la justice en juillet. Le leader du CHP avait réuni à Istanbul plus d'un million de personnes pour la dernière étape de sa grande marche depuis Ankara, qui devait dénoncer l'arbitraire du pouvoir de Recep Tayyip Erdogan. Et désormais, le parti voudrait bien ouvrir un deuxième chapitre de ce mouvement avec ce congrès extraordinaire, avec des dizaines d'ateliers pour mettre en lumière les injustices du pouvoir turc dans tous les secteurs de la société. Organisé la veille des grands congé de l'Aïd, ce congrès s'adresse surtout aux militants du parti, mais c'est bien la preuve que l'opposition à Recep Tayyip Erdogan veut lancer sa machine de guerre politique un peu moins de 2 ans avant les prochaines échéances électorales. 2 ans, ce n'est pas de trop vu la puissance du parti au pouvoir qui contrôle entièrement l'appareil d'État et dans un contexte de purge et d'état d'urgence. Un autre parti d'opposition issu d'une fraction de l'extrême droite nationaliste devrait également bientôt voir le jour et même le président Erdogan multiplie les rassemblements et les discours militants. Bref, la Turquie, plus polarisée que jamais, semble bien être entrée dans une campagne électorale permanente.
À noter que le président Recep Erdogan tient lui-même un meeting géant aujourd'hui dans l'est du pays. Des milliers de Philippins ont manifesté aujourd'hui contre la guerre anti-drogue menée par le président Rodrigo Duterte. C'est le meurtre par la police d'un jeune homme de 17 ans qui a soulevé une vague de protestations dans le pays. Pour les agents, cet adolescent était un trafiquant de drogue, armé et dangereux au moment de son arrestation, mais des images de vidéosurveillance ont montré que le jeune homme n'était au contraire pas armé avant d'être tué. Quelques 3000 personnes se sont donc réunies aujourd'hui dans les rues après une veillée avec la famille du jeune homme décédé. Ce type de manifestation, il faut le signaler, est rare aux Philippines où la politique très répressive est populaire, selon les enquêtes d'opinion. La France va accorder un prêt de 430 millions d'euros en 2017 à l'Irak. Il s'agit d'une annonce faite aujourd'hui par le chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian. Il rencontrait aujourd'hui le premier ministre irakien Haider al-Abadi. L'objectif, c'est donc d'aider le pays dont le budget est fortement touché par la lutte contre les djihadistes et la chute des cours du pétrole. Les femmes de militaires en colère ont manifesté aujourd'hui à Paris. Elles étaient une trentaine réunies aux Invalides, mais leur mouvement revendique plus de 2500 adhérents. Après la baisse du budget de l'armée le mois dernier, le départ du général De Villiers et les récentes attaques terroristes à l'encontre des militaires, elles ont décidé de dire stop, elles veulent plus de considération et plus de moyens techniques et financiers. Écoutons Anne-Constance Coll, elle est l'avocate du collectif.
Aujourd'hui, ils ont 3 demandes très précises. La première, c'est qu'il n'y ait pas de coupe budgétaire parce que un budget doit être voté en équilibre. Si on le vote avec cette coupe, on va juste éponger le déficit de l'année dernière et on n'aura absolument aucun budget pour cette année. Donc c'est contraire à tous les principes des lois de finances. Ensuite, elles demandent à ce qu'il y ait un vrai traitement des soldats post-traumatiques. C'est-à-dire qu'on n'est pas uniquement le numéro vert et un dossier extrêmement compliqué à remplir qui prend 12 mois. On veut obtenir une cellule au sein des hôpitaux militaires qui ne soit pas un HP, mais qui soit une cellule dédiée, qui prenne en charge ce type de soldats. Et elle demande également à ce qu'il y ait de la transparence dans les communications. C'est-à-dire qu'on sache, comme la loi sur la transparence envers l'administration, envers les administrés existe, la même chose pour les militaires, sur quand est-ce qu'ils vont être payés, leur solde, quand il y a du retard, ou sur aussi les trop perçus. Parce que là, on leur demande des trop perçus sans en justifier, sans expliquer pourquoi, sans expliquer comment. Et le fait de prendre ces trop perçus fait que les familles se retrouvent endettées et avec des problèmes financiers. Il est évident que les coupes budgétaires vont avoir des conséquences sécuritaires, puisque, par exemple, un gilet pare-balles a une durée de vie de 10 ans. S'il n'est pas renouvelé au bout de 10 ans, qu'est-ce qui se passe? Le soldat est en danger. Donc souvent, ce sont les femmes de militaires qui se cotisent pour payer le gilet pare-balles. Les femmes de militaires cherchent d'abord à avoir une voie amiable. Et si ce n'est pas le cas, eh bien effectivement, il faudra engager des actions judiciaires là-dessus.
D'autres actions en région sont d'ores et déjà prévues, avec notamment une grande manifestation en Occitanie fin septembre. Les propos que nous venons d'entendre ont été recueillis par David Ravier. Les emplois aidés ne seront pas supprimés, mais ciblés sur les personnes les plus éloignées de l'emploi et les secteurs où il y en a le plus besoin. C'est ce que déclare aujourd'hui Muriel Pénicaud, ministre du Travail, dans un entretien publié dans Le Monde. Elle affirme que ces emplois aidés seront donc maintenus pour ce qui de plusieurs domaines, notamment pour l'accompagnement des élèves handicapés, l'outre-mer ou encore l'urgence en matière sociale et sanitaire. En France, politique, donc, avec un rendez-vous qui amorce la rentrée pour l'opposition de droite. Aujourd'hui et demain, la ville du Touquet, dans le Pas-de-Calais, accueille le campus national des jeunes républicains. Alors, il est bien sûr beaucoup question de la campagne pour la présidence du parti. L'élection doit se tenir les 10 et 17 décembre. Laurent Wauquiez, on le sait, en est le favori. Sur place, donc, au Touquet, la mobilisation est relativement faible. Peu de ténors du parti ont fait le déplacement. Ce sont essentiellement des figures locales qui sont présentes. Bonsoir Stéphane Robert.
Oui, bonsoir Ilan.
Qu'est-ce qui peut, selon vous, expliquer cette désaffection ?
Oui, bien déjà, il y a le fait qu'on n'est pas dans une séquence électorale ou pré-électorale, mais post-électorale. Et je vous rappelle que la droite a perdu la présidentielle et les législatives. Elle n'est donc pas en situation de créer une dynamique susceptible de mobiliser les foules. L'an dernier, à la même date, à quelques mois de la primaire à droite, il y avait là 1500 personnes pour applaudir Nicolas Sarkozy et Alain Juppé. Cette année, ils sont 250 tout au plus. Et les têtes d'affiche s'appellent Xavier Bertrand, Éric Woerth et Jacques Millard. Et puis il y a le fait que la droite est plus divisée que jamais face au macronisme. Avec d'un côté les juppéistes réunis ce week-end à Bordeaux en catimini et qui se demandent comment faire vivre leur singularité tout en soutenant Emmanuel Macron. Les fillonistes, eux, se cachent. Ils se retrouveront discrètement le week-end prochain à la Baule et il n'y a guère ici au Touquet que l'ancienne porte-parole Florence Portelli venue esquisser un examen de conscience. Xavier Bertrand et Valérie Pécresse, qui viendra demain, s'interrogent quant à eux sur l'avenir, en dedans ou en dehors du parti. Et puis Laurent Wauquiez, grand favori, vous l'avez dit, pour devenir le futur président de Les Républicains en décembre prochain, a lui boudé l'invitation. Dans ces conditions, on peut comprendre que ce qui reste de militants chez LR est un peu déboussolé. Tout le monde est bien conscient qu'il va falloir reconstruire et rassembler les troupes éparpillées, mais personne ne semble véritablement en mesure de dire comment.
Merci Stéphane Robert pour votre analyse. Du côté de la gauche, il y a des universités d'été également qui se tiennent ce week-end. Les militants de la France Insoumise se retrouvent à Marseille, par exemple, ceux du PS à Paris, ceux d'Europe Écologie Les Verts à Dunkerque et les communistes à partir de demain à Angers. Alors à l'exception de la France Insoumise, de façon générale, ces universités d'été attirent assez peu cette année les militants. Pour Thomas Guénolé, politologue et chercheur associé à l'IRIS, les partis traditionnels de gauche doivent impérativement se réinventer.
Le paysage des formations politiques de gauche est assez simple à résumer. Europe Écologie Les Verts n'a plus qu'un député et est en faillite financière. Le Parti Socialiste a eu un écroulement électoral puisqu'il est descendu jusqu'à grosso modo entre 6 et 10% des voix, ça dépend comment vous comptez. Et ils sont aussi en faillite financière. Et puis vous avez, à contrario, la France Insoumise, qui elle a une situation de prospérité financière maintenant du fait de son essor électoral spectaculaire, puisqu'à la présidentielle, ils ont doublé leur score par rapport à la fois d'avant. Le problème du PS, du PCF et d'Europe Écologie Les Verts, c'est que si ils veulent juste s'accommoder de la mondialisation économique, mais dans un sens plus modéré. Dans ce cas-là, ils arrivent très vite chez Emmanuel Macron, et donc ils n'ont pas de différence à apporter. Soit ils sont dans un registre qui est contre la mondialisation malheureuse et qui imagine un alter-système, et dans ce cas-là, ils arrivent très vite chez Jean-Luc Mélenchon. Et donc le problème, c'est que vous avez deux aimants politiques extrêmement forts pour ou contre la mondialisation sous sa forme actuelle, l'aimant Macron et l'aimant Mélenchon, et selon votre position à vous, parti politique, pour ou contre la mondialisation sous sa forme actuelle, vous finissez chez l'un ou vous finissez chez l'autre. Et donc, pour le PS, pour le PCF, pour Europe Écologie Les Verts, il est très difficile d'éviter de disparaître par écartèlement entre ces deux pôles.
Des propos recueillis par David Ravier. Demain, le ciel est changeant, parfois ensoleillé, parfois pluvieux. Des orages sont annoncés notamment sur les Pyrénées-Atlantiques ainsi que sur la Haute-Marne. Demain matin, les températures partiront de 20 du côté de la Manche. Elles monteront jusqu'à 30 dans le Gard. Édition préparée avec Moussa Adam. Elle a été réalisée à la technique par You2Diego Hack Lopez.